Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous. Métropolez-vous est de retour après ces deux mois où nous avons dû mettre nos programmes entre parenthèses, crise sanitaire oblige. Je suis donc très heureux de retrouver aujourd'hui tous les fidèles de cette émission et je rappelle, pour ceux qui la découvriraient, que nous avions entamé cette saison une série consacrée aux communes de la métropole toulousaine, à leur histoire, leur patrimoine et leur territoire. C'est ainsi qu'une quinzaine d'entre elles ont déjà fait l'objet d'un ou plusieurs numéros, ce qui nous a permis de quadriller les quatre points cardinaux de Toulouse Métropole, de la commune au territoire encore très rural, à celle dont l'espace est entièrement urbanisé, mais nous n'avions pas encore abordé jusqu'alors la capitale métropolitaine, Toulouse, un très gros morceau et un vaste sujet qui va nous occuper pour quelques émissions, comme vous vous en doutez, rien que son histoire, très ancienne, diverse, marquée par plusieurs civilisations, mérite plusieurs numéros. Nous allons consacrer celui-ci au premier temps de la préhistoire au royaume des Visigoths, en passant par les périodes gauloises puis gallo-romaines. C'est parti pour un passionnant voyage à travers les siècles à la découverte du Toulouse des origines. Pour nous guider dans les premiers temps de ce qui deviendra Toulouse, il fallait un expert et nous avons la chance d'en recevoir un aujourd'hui dans cette émission en la personne de Jean-Marie Payet. Bonjour monsieur, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors si vous êtes présent dans ce studio, c'est parce que vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage collectif « Histoire de Toulouse et de la métropole ». Pour qu'on fasse un peu connaissance avec vous, est-ce que vous pouvez préciser à quel titre et pour quelle période de l'histoire de Toulouse vous êtes intervenu dans la rédaction de cet ouvrage ?
Bon, je l'ai fait au double titre de quelqu'un qui a été, pendant sa carrière, je suis maintenant retraité depuis quelques temps, mais pendant sa carrière enseignant, professeur à l'université d'histoire ancienne et d'archéologie, et par ailleurs quelqu'un qui a participé à un certain nombre d'opérations archéologiques, notamment par exemple à l'amphithéâtre de Purpan, et qui a dirigé ou coordonné des ouvrages collectifs sur Toulouse dans la période ancienne. Et donc il a été décidé que la période ancienne, remontant jusqu'à la préhistoire et allant jusqu'à la fin du royaume visigothique, en 507 de notre ère, pouvait être traitée globalement, et c'est donc moi qui en ai été chargé.
Voilà, vous avez enseigné l'histoire ancienne à l'université Toulouse-Mirail.
Exactement.
Eh bien, merci pour ces précisions, ça nous permet de savoir d'où vous parlez, comme on dit. Je pense que tout le monde aura compris que vous connaissez sur le bout des doigts les périodes historiques que nous allons évoquer dans quelques minutes avec vous. Dans l'immédiat, nous allons rester dans le présent, puisqu'il est l'heure de retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. La première information du jour, c'est le monde de la culture qui rouvre progressivement ses portes dans la métropole toulousaine.
Depuis le 11 mai, début du déconfinement progressif, les personnels de Toulouse Métropole ont mis en œuvre la réouverture des structures culturelles d'ici début juin. Celle-ci se fait en accord avec les règles sanitaires édictées par le gouvernement et la mise en place des mesures de protection pour les agents et les usagers. Parallèlement, la mise à disposition gratuite des services en ligne continue. Ce lundi, les archives municipales ont réouvert leurs portes, y compris la salle de lecture en jauge adaptée. Jeudi 21 mai, l'Envol des Pionniers et Aéroscopia, deux établissements métropolitains, accueilleront le public. Mardi 26 mai, les bibliothèques restaureront d'abord un service d'emprunt emporté et de portage de documents pour les résidents des EHPAD. Pour le retour de documents, dans l'attente de la réouverture, aucune pénalité sur les emprunts en cours ne sera exigée. Enfin, lundi 2 juin, les musées et sites historiques et de culture scientifique rouvriront leurs portes au public. Les groupes seront limités à 10 personnes. Parmi eux, le musée Saint-Raymond, le musée Georges Labitte, le musée de Toulouse, le Matou, la galerie du Château d'Eau, la chapelle des Carmélites, la basilique Saint-Sernin, le quai des Savoirs et les abattoirs. Pour rappel, les musées des Augustins et Paul Dupuis sont en travaux, mais continuent à proposer des ressources en ligne. La Halle de la Machine prévoit de son côté une réouverture de ses attractions avant l'été.
Après la culture, le domaine social, on a appris que la justice a rejeté la requête de plusieurs associations qui viennent en aide aux sans-abri à Toulouse.
5 associations caritatives, Médecins du Monde, la CIMAD, le Secours catholique, Utopia 56 et la Fondation Abbé Pierre avaient saisi la justice pour enjoindre l'État, la ville de Toulouse et la métropole à prendre des mesures adéquates en faveur des personnes sans-abri lors du confinement. Les collectivités étaient poursuivies pour atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales des personnes précaires, faute d'accès à l'eau et à l'hygiène. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête. Dans un communiqué publié par la ville de Toulouse, celle-ci a fait savoir que les collectivités ont fait valoir que la mise en œuvre de leurs actions avait commencé bien avant la crise sanitaire et qu'aucune carence grave de nature à porter atteinte au respect de la dignité humaine ne pouvait leur être imputée.
Et puis pour finir, une nouvelle que vous êtes sans doute nombreux à attendre avec impatience, le chantier de la troisième ligne de métro reprend à Toulouse.
Après 6 semaines d'arrêt, les sondages et carottages préparatoires à la construction de la troisième ligne du métro avaient déjà redémarré. Durant ces 6 semaines, les études ont continué, mais devant les besoins d'obtenir des éléments techniques sur le sous-sol pour préciser le positionnement des ouvrages et des stations, les travaux ont dû reprendre avant la fin du confinement. La reprise s'est faite, précise Tisséo Ingénierie, avec l'aval des autorités sanitaires et conformément aux règles définies par une charte rédigée par les professionnels du bâtiment. Suspendu depuis le 17 mars en raison de l'épidémie, les chantiers du téléphérique Téléo reprennent eux aussi progressivement. Des travaux qui redémarrent dans le strict respect des règles de sécurité sanitaire. Le téléphérique urbain devait être mis en service à la fin de l'année, une date qui sera probablement reportée.
Voilà, c'était le flash d'actualité métropolitaine de Corinne Saint-Félix et Jean-Marie Payet. Parmi ce flot d'informations, il y en a une, je pense, qui a dû retenir toute votre attention, c'est la réouverture prochaine des musées toulousains à compter du 2 juin. Et parmi ces musées, il y en a un que vous connaissez bien, c'est le musée des Antiques, le musée Saint-Raymond. Et cette année, il y a une grande exposition qui est consacrée à une période de l'histoire toulousaine que vous connaissez très bien et dont nous allons parler dans quelques minutes avec vous, c'est la période visigothique.
Ben oui, il y a en effet une très belle exposition, je le sais pour avoir eu la chance de la visiter peu de temps avant le début du confinement, et pour y avoir été un petit peu embarqué aussi. Et je crois que c'est vraiment une exposition extrêmement intéressante, parce que la salle est relativement petite, mais c'est chargé d'informations, c'est très clair, très pédagogique, beaucoup de choses sont prévues pour les enfants. Il y a de la restitution 3D, il y a également quelques très beaux objets, quelques objets absolument magnifiques, qui viennent des régions gothiques d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est, et que jusqu'ici on n'avait jamais vu dans les musées français. Donc l'origine gothique, ici, des Visigoths, est particulièrement marquée, et c'est, je crois, extrêmement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent. Et on est frappé du nombre de gens à Toulouse et dans les environs qui s'intéressent à cette période visigothique que tout le monde avait au fond un peu oubliée, tout ce 5e siècle de notre ère.
Encore une exposition passionnante, comme souvent, au musée Saint-Raymond. Eh bien, merci d'avoir bien voulu nous faire part de toutes ces précisions. Nous allons maintenant remonter le fil de l'histoire de Toulouse avec vous jusqu'à ses origines les plus anciennes, de la préhistoire au royaume visigoth.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropolez-vous la suite avec l'invité de ce numéro, Jean-Marie Payet, universitaire, professeur d'histoire ancienne, un des rédacteurs du livre Histoire de Toulouse et de la métropole paru aux éditions Privat récemment. Nous allons faire les choses dans l'ordre, et pour faire les choses dans l'ordre, il va falloir qu'on remonte loin dans le temps. Est-ce qu'on trouve des traces de présence humaine très ancienne sur le territoire actuel de la commune de Toulouse, ou est-ce que ça se passe plutôt en périphérie ?
Clairement, ça se passe plutôt en périphérie. C'est même très étonnant quand on voit ce site qui peut paraître comme le site idéal, en quelque sorte, le site de la ville romaine, c'est-à-dire le cœur de la ville actuelle. C'est assez étonnant de constater que, pour la période préhistorique, on a des traces de présence tout autour, aux environs de Toulouse, mais qu'on n'en a quasiment pas sur la ville de Toulouse elle-même.
Voilà, on trouve alors quelques objets du paléolithique inférieur.
Oui, quelques objets du paléolithique inférieur, il y a quelques découvertes du côté de Blagnac, il y a quelques découvertes sur la rive droite de la Garonne en amont de Toulouse, mais véritablement ce sont des choses très parcellaires et on n'arrive pas à reconstituer une occupation organisée. Il y a là sans doute des gens qui passaient ou qui s'y installaient pendant quelque temps, mais il n'y a pas d'occupation organisée. En revanche, les lieux qui étaient choisis étaient bien choisis. Ce seront les lieux qui seront choisis plus tard, à l'époque proto-historique et juste pré-romaine, c'est-à-dire les terrasses qui sont les terrasses naturelles de la vallée de la Garonne, qui permettent d'être à la fois tout près de la Garonne comme axe de circulation, mais en même temps à l'abri des crues.
Voilà, donc le néolithique, le chasséen. Alors, il y avait un village à Villeneuve-de-Lausanne.
Alors, il y a un village à Villeneuve-de-Lausanne. La seule période véritablement préhistorique qui soit bien représentée, non pas à Toulouse même, mais aux environs immédiats, c'est la période chasséenne. C'est entre les années 4300 et 3500 avant Jésus-Christ. Et aussi bien au sud qu'au nord de Toulouse, on a des traces importantes de cette période Villeneuve-de-Lausanne, le secteur d'Ancely.
Saint-Martin-du-Touche, je crois.
Saint-Martin-du-Touche, tout à fait. Le site de Château-Persin sur la commune de Seille, au nord de Toulouse, où on a retrouvé une extraordinaire palissade et un extraordinaire rempart de terre calcinée. Ce sont les travaux de Jean Vaquer. Il y a un petit livre de Jean Vaquer récent dans la collection Cette année-là à Toulouse, édition Midi-Pyrénéenne. Il y a un petit livre d'une cinquantaine de pages absolument lumineux sur ce sujet qui était très méconnu et qui montre l'importance de cette découverte, de cette palissade, parce que véritablement, là, on a une installation et des gens qui arrivent probablement d'Italie, qui arrivent de la zone méditerranéenne et qui sont des agriculteurs. C'est-à-dire que c'est la première trace d'une présence d'une population agricole, une population d'agriculteurs dans la région immédiate de Toulouse. Et on peut penser par exemple qu'à cette époque-là, déjà le blé du Lauragais, qui sera un des fleurons de la production des environs de Toulouse pendant des siècles et des siècles, le blé du Lauragais a dû commencer à intéresser ces gens-là à cette époque-là.
Et puis on a trouvé donc une nécropole dans le quartier Saint-Roch. Alors là, on est en moins 800 à peu près.
Voilà, c'est ça. Dans les années 800-600 avant Jésus-Christ, là, c'est véritablement sur le sol même, le quartier Saint-Roch.
La commune de Toulouse.
Voilà, ouais. On est sur la commune de Toulouse, dans la partie sud, la zone en Palo, Saint-Roch, la rue Ferretra, etc. Et là, on a une nécropole du 8e au 6e siècle, une première trace d'occupation qui est une occupation organisée. Qui dit nécropole, alors comme souvent en archéologie, on connaît mieux les morts que les vivants, la ville des morts, nécropolis, c'est la ville des morts, et donc qui dit nécropole dit trace d'un habitat organisé. C'est la première véritable trace d'habitat organisé, donc 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, on est à la jonction de l'âge du bronze, la fin de l'âge du bronze, et du tout début de l'âge du fer.
On arrive à la période gauloise, donc. Alors là, c'est fin du 3e siècle qu'il y a une véritable occupation sur la commune de Toulouse et aux alentours. Aux alentours, d'ailleurs.
On a des traces d'une installation systématique de ceux qui s'appelaient les tectosages, mot à mot, c'est un mot gaulois qui veut dire les chercheurs de terre. Hein. Chercheurs de terre, très exactement. Donc ça indique bien des populations qui sont à l'origine nomades, en quête de terre, mais qui se sédentarisent en quelque sorte quand ils ont ces terres. Et ils vont très vite occuper un territoire vaste qui n'est peut-être pas à la mesure de ce que sera ensuite l'immense cité de Toulouse romaine, mais qui est quand même un territoire très très grand. Donc ces tectosages s'installent là et il y a deux principaux sites. Dès les débuts du IIe siècle, qui sont bien occupés de manière organisée, structurée, systématique, c'est d'une part le site de Vieille-Toulouse, site de hauteur de Vieille-Toulouse, au sud alors quand même de la commune actuelle de Toulouse. Et puis le quartier Saint-Roch, dont on vient déjà de parler, qui connaît une occupation importante au cours de ce même IIe siècle.
Grand village gaulois apparemment à Vieille-Toulouse, sur une centaine d'hectares, ce qui est vraiment immense. On peut penser qu'il y avait beaucoup d'habitants déjà dans cette ville gauloise.
Vraisemblablement, oui, un nombre d'habitants. Alors quand on dit beaucoup, on aura l'occasion peut-être de reparler de la population, hein, quand on dit beaucoup d'habitants par rapport...
Pour l'époque, évidemment,
pour l'époque,
j'entends bien. Hein.
Mais on a probablement, aussi bien à Vieille-Toulouse qu'à Saint-Roch, déjà plus que plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Combien exactement, c'est difficile à dire, entre 2000 et 5000 personnes. Il semblerait, alors c'est très discuté, donc il faut que les auditeurs sachent qu'il y a des débats entre les spécialistes, parce que les sources sont malheureusement limitées et discutables souvent. Ce qui est très discuté, c'est qu'est-ce qui se passe au IIe siècle. Au IIe siècle, il y a deux principaux sites, celui de Saint-Roch, celui de Vieille-Toulouse. Il y a ceux qui tiennent pour une capitale à Vieille-Toulouse, ceux qui tiennent pour une capitale à Saint-Roch. Ce qui est certain, c'est que à la fin du IIe siècle, fin deuxième, début premier siècle avant Jésus-Christ, autour de 100 avant Jésus-Christ, disons un peu avant, un peu après, plutôt un peu après, le site de Saint-Roch cesse complètement d'être occupé. Or, dans les années 107-106 avant Jésus-Christ, les tectosages, devant l'invasion des Cimbres et des Teutons, une invasion germanique, prennent le parti des Cimbres contre les Romains, ils sont vaincus et ils le payent cher.
Oui, parce qu'ils étaient alliés de Rome.
Ils étaient alliés de Rome, c'est une alliance politique. Quand on était allié à Rome, ça veut dire qu'on était relativement soumis à Rome. Il fallait, en politique extérieure, en tout cas, se soumettre à la volonté de Rome. Et évidemment, ils se sont opposés à Rome à ce moment-là, ils ont fait le mauvais choix. Et donc, très vraisemblablement, la partie Saint-Roch, il est certain qu'archéologiquement, les traces disparaissent dans les années 100 avant Jésus-Christ, et que vraisemblablement, ils ont payé leur mauvais choix.
Oui.
Et que ceux qui sont à Vieille-Toulouse, au contraire, vont connaître leur grande époque au 1er siècle. Et là, à ce moment-là, ils deviennent les correspondants des Romains et ils se romanisent ou ils se latinisent en réalité très vite. Voilà.
C'est là qu'on entre dans la période gallo-romaine, donc on est à fin du 2e siècle, début du 1er, hein, c'est voilà, à peu près voilà. Ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que Toulouse devient Tolosa ou est-ce qu'il y a une origine plus ancienne?
Jusqu'à une quinzaine d'années, le débat avait longtemps fait rage, hein, parce que les seuls textes que nous ayons, évidemment, qui nous disent, qui nous parlent de Tolosa, sont des textes latins, des textes grecs, puis après des textes occitans et des textes en langue d'oïle, en langue française. Donc nous retrouvons ce vocable Tolosa. Les textes grecs sont intéressants pour la prononciation, parce que les textes grecs sont écrits avec un omicron pour to et un oméga pour l'o.
Un o qui traîne.
Ce qui prouve que un o qui traîne et un o qui est fermé. Et donc la prononciation devait être Tolosa. On comprend mieux comment on est passé à Toulouse. Toulouse en occitan et Toulouse en français, tout simplement. Alors, ce mot, on a longtemps pensé qu'il était peut-être latin, peut-être gaulois. Il n'est ni latin ni gaulois. Il est, comme on dit, ibéro-aquitain, c'est-à-dire qu'il nous arrive d'Espagne. Alors, c'est intéressant. Et il est probablement arrivé avant l'arrivée des Gaulois, bien sûr. Parce qu'autrement, on ne voit pas comment il aurait pu s'imposer à l'époque gauloise. Donc, il arrive peut-être à l'époque de la nécropole de Saint-Roch, hein, c'est possible, c'est 7e, 8e, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il arrive d'Espagne, et c'est intéressant aussi parce que, d'une part, c'est le début de quelque chose qui va durer jusqu'à nos jours, les relations privilégiées entre la zone toulousaine et l'Espagne, et d'autre part, c'est le point de départ d'un nom de ville qui va subsister, qui va être ibéro-aquitain, gaulois, romain et gréco-romain, occitan et français. Et je crois que c'est le seul cas de toutes les villes de France. Les villes ont souvent changé de nom à l'occasion. Donc c'est une donnée intéressante, originale de Toulouse.
Et intrigante en tout cas.
Ah oui.
Alors donc, les Romains prennent pour de bon le pouvoir. Toulouse devient Tolosa, devient vraiment gallo-romaine.
Oui.
Quelle place tient cette ville, cette cité, dans la province de l'Empire romain à laquelle elle appartient? Donc c'est la province narbonnaise en fait. La grande ville en fait, c'est Narbonne.
C'est Narbonne. La capitale de la province, c'est Narbonne. Et la province de Narbonnaise est la première. Hein, elle est... Narbonne devient une colonie romaine en 118, mais trois ans auparavant, en 121 avant Jésus-Christ, a été créée la province. Donc on voit très bien les années, hein, ça tombe très bien avec notre chronologie toulousaine. Et Toulouse s'inscrit à l'extrême pointe ouest de cette province. Et donc, elle est en quelque sorte englobée dans le monde romain, la République à l'époque, mais c'est déjà l'Empire au sens politique du terme, le pouvoir. Elle est englobée dans ce monde romain très tôt, et c'est une ville romaine. Et il ne fait absolument aucun doute que Toulouse et les habitants de Toulouse et de la région, donc ceux de vieille Toulouse à l'époque, se sont prononcés avec César contre Vercingétorix pendant la guerre des Gaules. N'ayons pas peur de le dire, de faire passer les Toulousains pour des collaborateurs. Voilà, des collabos. Non, mais c'est comme ça. Une grande partie des populations romaines et celle des populations de la Gaule. Et ceux-là sont vraiment des... Si le mot gallo-romain a un sens, il convient particulièrement bien pour Toulouse à cette époque-là.
Qu'est-ce que vont apporter les Romains dans la région, et plus particulièrement à Tolosa? On peut imaginer qu'ils apportent une administration, une organisation, et puis aussi une architecture, tout un tas de constructions, d'édifices. Expliquez-nous un peu tout ça.
Alors, ils apportent un système politique. Ils apportent un système politique de type aristocratique, celui de Rome à la fin de la République ou sous l'Empire. C'est le même à peu près. Et avec donc des magistrats qui sont à la tête de la cité, des conseils qui sont élus, mais sur la base d'une grande richesse aristocratique. Donc un système aristocratique, mais un système politique avec des élections. Ils apportent donc la cité, c'est-à-dire que être membre de la cité, c'est avoir un certain nombre de droits. Alors la cité latine d'abord, et puis plus tard, au bout d'un certain temps, la cité romaine. Mais c'est avoir beaucoup de droits que n'ont pas les non-citoyens. Donc c'est une première chose. Le droit d'épouser une Romaine, le droit d'acheter un territoire sur le sol d'Italie ou de Rome, etc., etc. C'est véritablement une situation privilégiée. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les règles du droit sont les règles du droit romain, qui s'appliquent un peu partout, avec quelquefois un mixte entre le droit local et le droit romain, mais globalement, c'est le droit romain qui s'impose. Donc ça, c'est l'aspect administratif et politique. Ils appartiennent à l'Empire. Ce sont des provinciaux. Donc un provincial, c'est quelqu'un qui a aussi un certain privilège par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et puis, c'est le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est une ville. La ville n'existait pas avant Rome. Il y avait des choses qui y ressemblaient, y compris dans le monde gaulois. Mais la ville, véritablement, avec ses remparts, avec ses rues qui se coupent à angle droit, etc., c'est quelque chose qui est propre à Rome. L'aqueduc pour alimenter la ville en eau, les édifices de spectacle, un théâtre.
Amphithéâtre.
Un théâtre à Toulouse qui était dans le secteur de la Bourse actuelle, hein, pas très loin du Pont-Neuf. L'amphithéâtre qui était, lui, en dehors de la cité elle-même, puisqu'il était à Purpan. Il y a des bâtiments publics, naturellement, avec le forum l'hippodrome, qui était en gros sous la place Esquirol actuelle, la zone de la place Esquirol, c'est le centre de Toulouse. Il faut se représenter la ville de Toulouse comme occupant 90 hectares, avec au nord, la sortie nord, la place du Capitole. C'est un des grands regrets, hein, 1971, quand on creuse pour aménager un parking, et donc on détruit la porte nord de la ville romaine. Et puis au sud, c'est le secteur du Parlement, entre les deux, la rue Saint-Rome et puis son prolongement vers le sud, et puis de part et d'autre, à l'est, le secteur de Saint-Étienne et à l'ouest, la Garonne. Et le centre, c'est la place Esquirol.
Voilà, alors il y a des thermes, il y a des arènes, des temples évidemment, hein, on l'a dit. La ville a combien d'habitants à peu près à cette époque?
C'est une question à beaucoup d'euros, à laquelle il est difficile de répondre, parce qu'on n'a pas de données de type de... On n'a pas les chiffres du sens, du recensement. Mais en gros, on peut estimer, quand on voit que l'amphithéâtre, qui est construit vers 50 de notre ère, il y a 8000 places environ, le théâtre, il devait y avoir environ 5000 places, on peut penser qu'il y avait une quinzaine de milliers d'habitants, peut-être 15 000 habitants, 15 à 20 000 habitants, ce qui fait de Toulouse une grande ville, mais pas une très grande ville. C'est-à-dire, les deux très grandes villes de la Gaule, ce sont les deux capitales, et Lyon pour les trois Gaules, Narbonne pour la Narbonnaise, où il y a environ 50 000 habitants, on estime en général. Des villes comme Nîmes devaient être plus importantes, Vienne, voilà des villes qui étaient sans doute un peu plus importantes que Toulouse, et puis Toulouse qui vient juste après. L'originalité de Toulouse, c'est qu'alors au 3e ou 4e siècle, alors que toutes les villes de la Gaule, beaucoup de villes de la Gaule, se rabougrissent, Toulouse a plutôt tendance à s'étendre.
Juste une chose, peut-être pendant la période gallo-romaine, est-ce qu'il y a des événements, des personnalités qui ont marqué cette période de l'histoire?
Alors je dirais, 1. Auguste, le fondateur, au tournant de notre ère. C'est lui qui a pris la décision,
l'empereur,
évidemment.
L'empereur Auguste.
Alors, on est au tournant de notre ère, Toulouse est une ville romaine comme une autre. 2. Domitien. Domitien, à la fin du 1er siècle, l'empereur, c'est un empereur maudit, c'est un empereur qui a été ensuite, la mémoire a été condamnée, il a été tué, etc. Mais c'est un empereur qui a beaucoup apporté à Toulouse, notamment qui lui a donné, il était un dévot de la déesse Pallas Athéna, et c'est lui qui lui a apporté le nom de Palladia, Toulouse la Palladienne. Donc il y a là quelque chose d'important. Et un des grands personnages de l'histoire de Toulouse, à cette époque, probablement le plus grand, qui s'appelle Antonius Primus, qui était un sénateur, qui a bien failli être empereur, et qui joue un rôle très important dans la promotion de Toulouse à cette époque-là. Donc là, on a quelque chose à la fin du 1er siècle. Et puis après, on peut dire, un peuple heureux n'a pas d'histoire. Ben, une ville heureuse n'a pas beaucoup d'histoire. C'est-à-dire, nous n'avons pas de texte pour le 2e, quasiment pas pour le 3e siècle. À Toulouse, nous avons très peu d'inscriptions. Quand on pense qu'à Toulouse, on a peut-être une vingtaine d'inscriptions tout juste, alors qu'à Narbonne, ou à Vienne, ou à Nîmes, on en a des milliers. C'est sûr que du point de vue de la documentation, ça nous prive de beaucoup de choses sur la connaissance de la société, de la vie politique, de la vie publique, etc.
Alors tout de même un événement, le supplice de Saturnin.
Alors le supplice de Saturnin. Donc on a quelque chose qui est d'une logique, si j'ose dire, parfaite. Hein. On est au milieu du 3e siècle, on est sous le règne de l'empereur Dès. On est à un moment au 3e siècle, même si Toulouse se porte pas mal, où l'Empire, lui, se porte mal. L'Empire est menacé, s'estime menacé à l'extérieur, il y a des attaques aux frontières orientales. Et comme souvent, on cherche le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est les gens qui sont bizarres, qui ne sont pas comme les autres. Il y a un peu de ça, hein. C'est-à-dire les chrétiens. Et Saturnin, qui est le premier évêque de Toulouse, on est en 250, très exactement en 250, eh bien, il est finalement entraîné, accroché au dos d'un taureau, et il laisse la peau en proclamant, évidemment, sa fidélité. Mais une partie de sa petite église ne l'a pas suivi. Néanmoins, c'est le point de départ de l'église de Toulouse. Et il est commémoré, Saturnin, à l'époque wisigothique, dans des textes liturgiques qui sont effectivement intéressants, c'est-à-dire 2 siècles plus tard.
On y arrive aux Wisigoths. Donc les Wisigoths, on pourrait penser comme ça, que peuple barbare qui s'empare de la ville. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
Non, alors, ce sont des barbares. Lointainement, ils viennent du nord de l'Europe, du nord-est de l'Europe, Pologne, Suède. Il y a une grande dispute entre Polonais et Suédois pour savoir qui étaient les premiers Goums. Enfin, c'est ce secteur nord de l'Europe, sur la Baltique. Puis après, ils passent par la mer Noire. Et puis, avec l'Empire, entre le 3e et 4e siècle, ça passe par des hauts et des bas, les relations. C'est-à-dire que tantôt, c'est une lutte pour avoir des terres, pour avoir des richesses, et donc il y a des guerres. Tantôt au contraire, Rome estime que, alors qu'elle est en difficulté, elle peut se servir des Wisigoths pour se défendre. Alors là, on a 2 étapes. On a Alaric en 410 qui s'empare de Rome et qui la saccage, roi des Wisigoths. Puis on a un de ses descendants, mais très peu de temps après, hein, qui est amené à prendre la tête d'un ce qui va devenir un royaume wisigothique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces Wisigoths, ils sont à cette époque-là en Espagne, ils ont erré un peu partout, ils sont semi-nomades, mais ils aspirent à occuper un territoire et à l'organiser, à se sédentariser. Et Rome, finalement, leur propose, devant les difficultés que l'Empire romain a de plus en plus, leur propose d'occuper le terrain et de le défendre. Donc c'est un donnant-donnant. Vous occupez le terrain, vous avez droit à occuper une grande bande de terrain le long de la Garonne au départ, hein, entre Toulouse et Bordeaux, mais de manière très large, avec possibilité d'extension vers les Pyrénées d'un côté, vers la Loire, plus au nord, ben de l'autre côté. Et en échange, vous êtes des vassaux de l'Empire romain, vous faites partie de l'Empire romain, vous êtes sous notre autorité. Et les Visigoths l'acceptent. Il est très intéressant de voir que le premier roi Visigoth, qui a régné 30 ans, hein, qui s'appelle Théodoric Ier, quand il fait éduquer son fils Théodoric II, et c'est Théodoric II qui a fait ce témoignage, qui dit « Mon père m'a dit, si tu veux être un vrai roi à Toulouse et un vrai roi dans l'Empire romain, tu dois d'abord parler le latin parfaitement, ensuite il faut que tu le connaisses par cœur les œuvres de Virgile. » Donc ça fait rêver. Oui. Ce sont les Visigoths qui, pour être vraiment à leur place, passent par la culture romaine. Et on a des textes de droit gothique, de droit visigothique, où il y a quelques éléments de droit proprement gothique, mais l'essentiel est le droit romain et la langue. Et le latin.
Alors, ils s'installent. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Qu'est-ce qu'ils représentent dans la population?
Difficile d'évaluer, mais en gros, on estime entre 5 et 10% voilà. De la population. Ils sont à la surface de la population. Et ce sont les maîtres du terrain. Certains d'entre eux, alors ça fait partie du donnant-donnant, occupent de grandes terres et les font cultiver, soit par des vassaux visigoths, soit par des autochtones. Mais ils sont très, très minoritaires, bien entendu.
Comment ils se comportent avec les gallo-romains, avec les autochtones,
hein? Bah, apparemment, il n'y a pas eu de... Au moins pendant un grand demi-siècle, les choses se sont assez bien passées. Pendant longtemps, on a dit, et là, il se trouve que les Visigoths, comme les Romains installés en Gaule sont christianisés, dans leur grande majorité. Les Visigoths sont chrétiens aussi. Ils sont convertis au christianisme au 3e siècle, 3e, 4e siècle. Mais ils sont chrétiens ariens. C'est-à-dire que c'est considéré comme une secte hérétique par la grande église catholique. Donc on a longtemps dit qu'il y avait eu des espèces de guerres de religion, il semble pas, il semble que dans l'ensemble, il y ait eu en gros une entente à peu près convenable entre les uns et les autres, une sorte de respect mutuel. Et alors il y a un texte intéressant dans la vie, le témoignage sur Saturnin, qui commence par « à l'époque où le Sauveur est venu sur la terre dans la chair, et venir dans la chair ». C'est insister sur l'incarnation. Or, le problème des Ariens, c'est qu'ils avaient du mal à accepter. Hein. C'était tout le problème de l'époque.
Ouais.
Le Christ, vrai homme, vrai Dieu. Alors, était-il vrai homme,
c'est ça,
véritablement?
Ouais.
Et donc, si dans la mémoire que l'on transmet de Saturnin, on évoque une première église qui se réfère à un sauveur venu dans la chair, c'est typiquement du langage catholique anti-arien.
Ouais.
Donc, c'est une manière de dire, d'accord, vous avez le pouvoir, mais enfin, nous, Saturnin, il est à nous. Et l'Église, c'est nous qui l'avons fondée, et nous sommes les vrais latins et les vrais chrétiens.
Alors,
voilà, il y a un petit jeu.
On n'a pas dit, c'est 413, le moment où les Visigoths donc, s'installent à Toulouse, ou capitale de ce grand royaume. Bon, administrativement, il ne change pas grand-chose dans l'organisation de la ville.
Non, c'est toujours, l'organisation de la ville n'a pas dû être modifiée beaucoup. On ne sait pas très bien, malgré beaucoup de recherches récentes, comment fonctionnait le royaume lui-même. Ce qui est certain, c'est que ce royaume, au départ, a dû être un royaume qui était le long de la Garonne, et plutôt étendu du côté de l'Espagne. Que progressivement, au cours du siècle, ce royaume devient un royaume beaucoup plus vaste, et que, à partir des années 460-470, sous le règne d'Euric notamment, ça devient vraiment un véritable royaume, un royaume qui est immense. Toulouse en est la capitale, et il va d'Orléans à Gibraltar.
Oui.
Et de l'Atlantique jusqu'à la Bourgogne, où il y a un autre royaume, qui est le royaume Burgonde qui a donné Bourgogne, et ce sont d'autres Germains qui sont installés là dans un royaume plus ou moins cousin.
Alors, ce qu'ils ont laissé, par contre, dans la ville, c'est quelques constructions, c'est sous cet immense palais. Malheureusement, les vestiges, on sait où ils se trouvent, mais on n'en a plus de traces.
Non. Alors, à coup sûr, il y a un palais, on a un témoignage. Le grand auteur, qui est un auteur latin, un gallo-romain, originaire de Lyon, mais marié à une arverne de Clermont-Ferrand, voilà, qui s'appelle Sidoine Apollinaire, qui est le grand témoin du 5e siècle pour nous, et qui explique que le roi tenait ses assises dans la Domus Regia. Et la Domus Regia, ça désigne absolument un palais. Donc, c'est vraiment un palais. Or, lors des fouilles, qui étaient des fouilles préventives, en 1988, à l'emplacement de l'hôpital Larrey, c'est-à-dire place Saint-Pierre, quoi, en gros, derrière la place Saint-Pierre, on a découvert des vestiges qui étaient plaqués contre le rempart romain, un rempart romain conservé sur 7 mètres de haut. Et ces vestiges étaient datés du plein 5e siècle, et c'était très certainement l'entrée du palais des rois Visigoths. Mais si on admet que ce palais était fait, quand on voit l'ampleur de l'entrée, on se dit que le palais était important, il devait s'étendre le long de la Garonne, et probablement jusque du côté de la Dorade et peut-être du Pont-Neuf. Enfin, il y avait un secteur visigothique, et ce n'est pas étonnant qu'il soit le long de la Garonne. Parce que ce qu'on a confié aux Visigoths d'abord, c'est le contrôle sur l'axe garonnais. C'est ça pour eux qui était important.
Qui, à l'époque,
donc, qu'ils installent leur palais là, ça n'a rien de surprenant.
Donc la durée de leur règne à Toulouse, finalement, est assez courte. Hein. C'est à peine un siècle.
Un petit siècle.
Ça se termine en 507, avec la victoire de Clovis et des Francs avouillés du côté de Poitiers. Mais après, ils vont prendre la ville, apparemment, sans grandes escarmouches.
Très vite, ils prennent la ville. À ce moment-là, les Visigoths abandonnent évidemment ce territoire. Toulouse est désormais coupée de la Méditerranée, coupée de Rome et de la Méditerranée. Toulouse va devenir un appendice, enfin la région toulousaine, un appendice méridional du pouvoir franc. Et les Visigoths, de leur côté, occupent encore une partie de ce qu'on appelait la Septimanie, Narbonne, Carcassonne, et puis évidemment toute l'Espagne. Et pendant deux siècles, jusqu'en 711, eh bien, il y a un royaume visigothique en Espagne, avec comme capitale Tolède. Et en 711, c'est l'arrivée des Arabes qui met fin au pouvoir visigothique.
Et là, ce sera une autre histoire qu'on racontera lors d'une prochaine émission. Nous sommes arrivés au terme de celle-ci, la première consacrée à l'histoire de Toulouse. Merci infiniment Jean-Marie Payet de nous avoir guidés jusqu'aux origines de celle-ci. Préhistoire, période gauloise, période gallo-romaine, royaume visigoth. Une longue période déjà très riche en événements, en personnalités et qui pose les fondations de ce que deviendra Toulouse. Nous voilà donc arrivés au début du 6e siècle. Nous reprendrons de là lors du prochain numéro pour nous attaquer à la longue période du Moyen-Âge, qui va nous amener, elle, jusqu'au 15e siècle, sur près de 1000 ans d'histoire. Soyez bien au rendez-vous. En attendant, je vous invite à vous procurer ce très bel ouvrage auquel a collaboré Jean-Marie Payet, Histoire de Toulouse et de la Métropole, Paris aux éditions Privat, est disponible dans les bonnes librairies de la métropole toulousaine. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.